te montrer. Écoute. FDX version, je reste à la maison.
C'est la vie des élèves à la maison.
FDX, la radio qui réunit les élèves en toute sécurité.
Pendant la quarantaine.
Salut, vous êtes sur MTX. À Montreux-Est, les élèves font de la radio. Avec l'école à distance, ce sont tous les élèves qui ont été invités à produire des chroniques depuis chez eux. Et oui, la radio, c'est facile à faire à la maison. Il suffit d'un téléphone intelligent. Cette semaine, nous vous offrons une émission littéraire. L'exposé de français de deux élèves de la classe de raccordement 2 se transforme en émission de radio. Vous allez ainsi découvrir les personnages féminins du conte de Voltaire, Candide. Sans oublier quelques notes de films Disney. Écoutez Elisa et Manon nous parler de Voltaire avec brio. À la fin de leur chronique, vous entendrez un titre composé, écrit et interprété par Elisa. Après Voltaire, quatre élèves de la classe de raccordement 1 vous présentent un roman contemporain, Le milieu de l'horizon, écrit par Roland Buty. Grâce à Nicolas, Fabio, Victoire et Léa, vous allez découvrir l'histoire de Gus pendant la sécheresse de 1976, ici, dans le canton de Vaud. Un peu de musique pour commencer, comme c'est la tradition, avec le projet Imagine Music. Continuez de chanter chez vous. Voici la dernière chanson proposée sur le site imaginemusic.ch, Ma place de Fraissinet. Bonne écoute sur MTX et n'oubliez pas, MTX attend vos chroniques. Même si l'école a repris en classe, on continue à faire de la radio chez soi.
Si l'école était buissonnière, que des nuits blanches sans lumière, pour toi, pour nous, partout, sur toute la terre. Alors qu'est-ce que tu voudrais faire? La liberté va-t-elle nous plaire? Si tous les jours demain sont comme hier. Avant que les grands tableaux ne s'effacent, bien, je veux tout savoir. C'est ici ma chance sous les étoiles, c'est là ma place. Si tes bouquins deviennent poussière, savoir lire serait une guerre, une insomnie d'orage sans frontières. Plus d'examen, plus de matière, et nos copains loin le désert. Rire à loisir, c'est triste en solitaire. Viens, je viens m'asseoir avant que les grands tableaux ne s'effacent. Viens, je veux tout savoir. C'est ici ma chance sous les étoiles.
Minasan, konnichiwa. ラジオ MTX 元気になるラジオ。
Aujourd'hui, nous vivons une période où les revendications féministes sont très présentes. Le mouvement Balance ton porc est celui qui nous interpelle le plus. Grâce aux artistes qui expriment leur opinion et qui montrent du doigt les comportements inadéquats des hommes vis-à-vis des femmes, nous sommes en pleine réflexion en vue de revaloriser la place de la femme dans notre société actuelle. Il nous a donc paru très intéressant d'étudier le rôle de la femme dans Candide de Voltaire et montrer ainsi quelle était la vision de la femme au XVIIIe siècle et comment l'auteur la décrivait dans son conte. En Europe, à la fin du XVIIe, lors de la naissance de Voltaire, l'apparition des salons littéraires donne aux femmes un rôle beaucoup plus important. Malheureusement, seules les femmes nobles ou fortunées commencent à s'émanciper et osent s'exprimer en donnant leur avis et en dévoilant leur esprit et leur culture. La fille reste la possession du père de famille, puis de son mari. Elle est éternellement soumise à son autorité, elle n'a aucun accès à l'éducation, elle n'est pas considérée comme un vrai individu. On considère qu'elle est inférieure à l'homme, aussi bien en matière physique que intellectuellement. Ses journées se résument aux tâches domestiques et à la garde des enfants. Elle est exclue de la société civile. Elle n'a pas le droit de sortir non accompagnée. Pourtant, une des femmes les plus admirées par Voltaire est Émilie du Châtelet. Il la rencontre en 1734, tombe sous son charme, de son intelligence et devient son amant. Voltaire l'encourage à approfondir ses connaissances en physique et en mathématiques, matière pour lesquelles il lui reconnaissait des aptitudes particulières, la considérant supérieure à lui-même en ce domaine. Leur amour dure plus de 15 ans et ils ne cesseront pas de s'encourager mutuellement dans leurs recherches. Peu après la mort d'Émilie en 1749, Voltaire écrivait à l'un de ses amis, je cite, « Je n'ai pas perdu une maîtresse, mais la moitié de moi-même. » Un esprit pour lequel le mien semblait avoir été fait. En 1759, lors de la parution de Candide, Voltaire collabore aussi à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Ce grand dictionnaire, vendu dans toute l'Europe, défend la liberté de penser et d'écrire, la séparation des pouvoirs et attaque la monarchie du droit divin. C'est donc durant la même période que Voltaire va exprimer sa grande idée des droits de l'homme au travers de Candide, l'histoire de ce jeune garçon qui traverse le monde et qui va nous emmener dans une aventure totalement inventée, mais qui va se dérouler comme un voyage initiatique. Mais revenons à notre sujet et voyons maintenant comment Voltaire va nous parler des femmes dans son fameux conte philosophique. Le plan de notre exposé va se diviser de cette façon.
Premièrement, nous allons vous faire part de nos recherches sur le thème « Les femmes dans Candide », qui relate l'existence des femmes de la haute société. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, dénommé « siècle des Lumières », un mouvement culturel portait les hommes vers une philosophie d'ouverture, de tolérance et de liberté, en nous appuyant sur quelques exemples qui se trouvent dans Candide. En outre, nous vous présenterons des chansons en lien avec ce thème. Nous allons également vous parler des points communs avec notre société actuelle. Et pour finir, nous vous donnerons notre avis personnel. Et le titre du livre est Candide ou l'optimiste. C'est un conte philosophique. Ce livre est apparu à Genève en janvier 1759 et son éditeur est Gabriel Cramer. Les femmes ne sont guère mises en valeur, leur vie se dégrade. Elles sont représentées comme des objets très naïfs, souvent sous l'autorité des hommes. Voltaire cherche à nous montrer la condition des femmes au XVIIIe siècle. Dans cette histoire, pour l'homme, la femme est source de plaisir, d'espoir, d'ennui et qui peut leur apporter de l'argent. Les hommes veulent qu'elles fassent tout pour eux sans se plaindre. Même si elles n'ont aucun droit, elles ne peuvent pas s'exprimer, l'homme a besoin d'elles. Les femmes sont dépendantes des hommes. Dans Candide, il leur arrive des choses atroces. Elles sont violées, traitées comme des esclaves, n'ont aucun droit et sont au dernier rang de l'échelle sociale. Elles ne peuvent pas devenir riches toutes seules. La seule femme indépendante est la marquise, qui est obligée d'être malhonnête pour s'en sortir. Malgré tout, dans cette histoire, le personnage Candide respecte les femmes et les traite d'égal à égal. On peut dire que c'est un peu grâce à la philosophie de Pangloss qui pense que tout le monde est libre de vie, d'expression, de libre pensée, de parole et de choix. Et Pangloss, il dit même qu'il voit Cunégonde comme une perle à la page 154, où il dit « La perle des filles, le chef-d'œuvre de la nature ». Alors que Cunégonde est décrite comme appétissante, comme on décrit un aliment normalement, elle est aussi traitée comme une prostituée car elle est partagée entre deux hommes, à la page 164. Candide pense que c'est à cause de Cunégonde aussi qu'il est chassé du paradis, qui fait référence à la Genèse. Il pense aussi que c'est de sa faute s'il a eu tous ses malheurs. Et en gros, le seul point positif, c'est qu'il gardait espoir en pensant la retrouver un jour, dans les moments les plus difficiles de sa vie. À la page 152. En guerre, il n'oublie pas Cunégonde. C'est aussi dégradant pour elle que Candide, à la fin, il l'épouse que pour tenir ses engagements, alors qu'il l'aime pas autant qu'au début, juste parce qu'elle a perdu beaucoup de sa beauté. Paquette, qui au début était décrite comme douce et délicate, Elle est devenue un objet sexuel en étant devenue prostituée et elle fait semblant d'être heureuse pour gagner sa vie. C'est un peu triste. Quant à la vieille, elle a été vendue et achetée comme on achète une marchandise au marché.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Parler te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. T'es pas si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, aller te faire en oui, je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi.
Est-ce que c'est bien le cas pour tout le monde?
Pardon, moi je reviens juste sur un point qui est pas forcément hyper limpide. C'est juste que quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est...
Que c'est non.
Non. D'accord. Ah ouais. Ah, faut bien... ouais, c'est pas si simple, faut bien choper le truc, hein.
Moi, ce que j'ai compris, en fait...
Pardon, c'est que je te coupe. Ouais, je te coupe. C'est juste parce que y a un deuxième point, c'est que quand une fille dort, on sait pas, du coup, si on peut, si on peut pas. Et du coup, je me dis, peut-être que dans le doute, on peut
non,
tenter...
Non, la laisser dormir. Si elle dort, tu la laisses dormir.
Eh oui. Eh ben oui, ok. Mmh.
D'accord. Et pas penser qu'on peut imposer notre désir, vous aviez dit.
Ouais, très bien, voilà. Tobias. Après, c'est pas la peine de crier, oui. Mais c'est super.
Pas la peine de crier, parce que comme on est tous là, on entend très bien.
Oui, des petites remarques, toujours.
Quoi? Un problème?
Non, si tu fais toujours des petites remarques, voilà. Et... Tu ferais mieux d'essayer de comprendre les femmes, tu vas de les écouter.
Ah,
tu vois,
écoutez, moi, j'écoute pas les femmes, moi, j'écoute pas les femmes.
Il me semblait.
On voit tous que t'as aucune sensibilité depuis tout à l'heure. Excuse-moi.
Calmez-vous, je pense que ce que vous essayez.
Oh, tais-toi.
Ta gueule.
Pourquoi?
Elle intervient au milieu du. Tout hystérique, là. C'est fou de faire ça.
C'est désagréable. On parlait du désir.
Allez, c'est okay. Con, pourquoi on s'embrouille comme ça? C'est elle qui nous coupe, hein,
coupeuse.
Laisse-moi te chanter, t'allais te faire en moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter.
Voltaire utilise l'ironie pour décrire ses personnages et le lecteur doit choisir si celle-ci se met au service de la femme ou non. Ainsi, la jeune Cunégonde de 17 ans, décrite comme étant fraîche, grasse et appétissante, ne met nullement la femme en valeur et la force à jouer le rôle de femme-objet qui ne sert qu'à satisfaire les désirs des hommes. On retrouve encore aujourd'hui cette tendance qui fait que penser que si une fille a été utilisée, c'est bien qu'elle l'a cherchée. Elle était sûrement trop désirable dans sa jupe moulante, ou alors qu'elle était trop maquillée, ou alors pas assez discrète. Mais ça, c'est pas normal. Certains chanteurs d'aujourd'hui usent toujours de cette même ironie pour décrire les jeunes femmes. Malheureusement, la pauvreté de leurs textes est souvent à pleurer. La chanson « Je ne dirai rien » de Black M est tout à fait dans cette lignée sexiste et qui ne donne de la femme qu'une image dégradante. Je cite « T'aimes te faire belle, t'aimes briller la night, t'aimes les éloges, t'aimes que les hommes te remarquent, t'aimes qu'on pense que t'es la plus, oh, je ne dirai rien. » Heureusement, ce qui a changé de nos jours, c'est le sens de la répartie aiguisée de nombreuses vedettes féminines actuelles. Ainsi, Angèle, avec le fameux tube « Balance ton quoi », répond aux rappeurs misogynes. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. Paraît que le rap est à la mode et qu'il marche mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ça serait normal. Je n'oserais pas écrire les paroles de certains textes, d'autres rappeurs, et je ne citerai même pas leur nom pour éviter de leur faire de la publicité.
Un jour, mon prince viendra. Un jour, on s'aimera dans son château.
Depuis mon enfance par les films de Walt Disney, je me suis rendu compte assez vite de l'aspect paternaliste et sexiste de la plupart d'entre eux, reprenant à sa manière les contes de fées traditionnels qui transforment à la sauce américaine. On y trouve très souvent le message qui dit à l'héroïne que son bonheur ne sera présent qu'avec la présence d'un homme.
Se lève et m'appelle, sifflant dans le ciel d'été. La montagne chante et me rappelle ce qu'est la liberté. Et je vole, je m'envole dans le vent et vers le ciel. Je m'envole dans le vent et vers le ciel.
Heureusement, le nouvel état d'esprit plus égalitaire a réussi à imposer quelques femmes indépendantes et fortes, telles Rebelle ou Vaiana, qui mènent leur vie sans l'aide d'un mari. Selon nous, le personnage de Cunégonde n'est pas réel. Il ne sert qu'à organiser le récit de Voltaire. En admettant que Cunégonde est une femme européenne, elle ne pourrait pas vivre dans ces temps d'aujourd'hui. En effet, elle manque de consistance, son personnage n'a pas de profondeur. C'est sans doute ce que Voltaire a voulu, décrire les défauts d'une fille qui n'a pas eu d'éducation et qui se résigne à son sort malheureux. Mais dans notre pays civilisé, les filles ont une éducation qui leur permet justement de faire face et de se battre. Ce n'est malheureusement pas le cas des femmes de certaines régions du monde où règne encore la domination des hommes. Nous pourrions donc imaginer une femme d'un pays d'Afrique, par exemple, vivant des violences aussi éprouvantes que Cunégonde. Mais notre volonté serait aujourd'hui de lui donner une âme et une profondeur. On voudrait que ce personnage féminin soit l'héroïne, justement, de l'histoire, afin de sensibiliser l'opinion publique et que les choses changent pour elle aussi. Comme nous l'avons dit avant, Nous dirons que les personnages féminins décrits par Voltaire dans Candide manquent de profondeur et sont souvent des stéréotypes qui n'échappent pas aux clichés. Les femmes ne sont que des faire-valoir pour faire avancer l'histoire. En utilisant l'ironie, Voltaire laisse plutôt la femme à la place qu'on lui impose à l'époque. De cette façon, il ne pousse pas le lecteur à réfléchir sur l'intelligence et la culture des femmes, et ceci malgré son expérience amoureuse avec Émilie du Châtelet. Ainsi, Voltaire ne défend pas l'égalité entre les hommes et les femmes. Pas plus que certaines vedettes actuelles qui humilient les femmes en les traitant comme des objets dans leurs textes stupides. Nous terminerons par cette citation de Bruno Rigolt, docteur en lettres et sciences humaines, qui nous dit dans son article « La femme et sa représentation dans Candide », je cite « De fait, si Voltaire a été le grand écrivain de la raison et du refus des préjugés, il n'a pas pour autant renoncé à exploiter inconsciemment ou à dessein certains clichés ou stéréotypes. » Voilà!
Je fais disparaître le soleil.
Et à la ferme, comment ça va?
Pas la première fois qu'on a une sale période.
C'est bon, on sait, il y a tout qui crève, il fait chaud. La température finira par baisser.
Tu crois que je sais pas que tu te tires dès que j'ai le dos tourné? que t'as tout le temps envie d'être ailleurs.
Gus ! Tu sais qu'on a besoin de toi en ce moment. Qu'est-ce que tu faisais ?
Pour cette chronique littéraire, nous allons vous parler du livre Le Milieu de l'Horizon, roman qui est sorti en 2013 aux éditions Zoé. Je vais commencer, moi Nicolas, par vous dire quelques mots de présentation générale. L'auteur s'appelle Roland Buty, il vit à Lausanne où il est aussi prof d'histoire au gymnase. Il écrit plusieurs autres romans, Un nuage sur l'œil et aussi Luce et Cécile. Son dernier roman est paru l'année passée et s'intitule Grand National. Le Milieu de l'Horizon a reçu de nombreuses récompenses, comme le prix Suisse de littérature en 2014 et aussi le prix du roman des romans, un prix remis par des élèves des gymnases suisses. Ce roman a eu un tel succès qu'il a été adapté au cinéma par la réalisatrice Delphine Lerisey. Le film est sorti en automne 2019 et nous avons pu le voir avec la classe dans un cinéma de Vevey. Ensuite, le distributeur du film est venu en classe nous parler de son travail et de comment le roman a été adapté en film. Le film est actuellement disponible en VOD si vous avez envie de le voir. Allez sur le site du distributeur Outside the Box et vous pourrez ainsi soutenir un des cinémas de notre région. Ce film relève un nouveau jeune acteur très prometteur, Luc Brutlez, un jeune valaisan qui joue le personnage principal. Le roman Le Milieu de l'Horizon semble tiré de la vie de son auteur Roland Buty. C'est Fabio qui va vous en dire plus sur le récit lui-même.
L'histoire d'un jeune garçon de 13 ans nommé Gus. Ça se passe durant l'été 1976. On est dans le canton de Vaud et une terrible sécheresse ravage les cultures. Et oui, déjà en 1976, il y avait des canicules. Gus vit dans une ferme avec ses parents et sa grande sœur Léa. Il y a aussi Rudy, c'est un cousin éloigné que le père est allé chercher dans sa famille au fin fond d'un canton suisse-allemand. Il souffre de trisomie. Il est très attaché au père de Gus avec qui il travaille au champ. La ferme a des ennuis. La crise agricole sévit déjà. Les paysans ont de la peine à vivre face à la concurrence de l'industrie agroalimentaire qui se déploie. Le père tente de survivre en investissant ses économies dans une poussinière, une sorte d'usine à poulets. Mais la chaleur étouffe les poussins qui meurent par dizaines. Comme c'est les grandes vacances, Gus donne un coup de main à son père. Il n'aime pas tellement ça, il préfère dessiner et rêver. Dans cette ferme au bord de l'asphyxie, surgit une jeune femme pleine de vie qui vient de quitter son mari. Elle s'appelle Cécile. Elle a rencontré la mère de Gus à la poste où elle travaille. Elles ont sympathisé et la mère l'a invitée à la ferme. La tension entre les parents de Gus s'intensifie. On partage les émotions de Gus qui souffre de la chaleur et de la solitude et qui se demande ce qui va advenir de lui et aussi de sa famille après cet été infernal. C'est un roman initiatique qui raconte le passage de l'enfance à l'âge adulte. On écoute maintenant Victoire et Léa qui vont nous lire des extraits qu'elles ont choisis.
C'est pas si simple.
Ce passage se situe au milieu du livre, au chapitre 5. Juste avant ça, Rudy, le cousin de Gus, a agressé Cécile. Ce dernier est trisomique. Cécile est une amie de la mère de Gus, qui habite chez eux, à la ferme, à cause de sa situation financière. Plus tard, Gus et son ami Mado sont partis longer la rivière pour arriver jusqu'à la cascade. Maintenant, je vais lire le passage. Mado s'est collé contre moi, en passant son bras autour de ma taille. Sa cage thoracique montant et descendant avec régularité contre mon torse. Mado avait des manières assez bourrues, une énergie nerveuse dans ses mouvements, des gestes sans détour, une façon de marcher et de courir très assurée qui faisait penser à un garçon. Elle était habitée par un petit être viril et têtu qui tentait d'exister dans son corps d'adolescente, présence que je trouvais très rassurante. J'aimais l'odeur de Mado. C'est même comme cela qu'elle est à jamais inscrite dans ma mémoire. une transpiration légère d'herbe fermentant au soleil. J'entends des voix. Hein ? J'ai entendu des voix dans la forêt, non ? J'ai tendu l'oreille pour essayer de percevoir quelque chose au-delà de la molle cascade. Elle tombait dans l'eau avec un bruit de robinet, dans un lavabo à moitié rempli. Il y a du monde qui vient. Ouais, les voix se rapprochent. Ouais, on dirait. Nous avons défait notre étroite embrigation de bras et de jambes pour descendre de notre caillou. Nous dépêchons ensuite, les cuisses piquées par le froid, de gagner l'autre rive, d'escalader la pente de quelques mètres en nous agrippant aux branches, de nous glisser derrière un tronc dans la base, entouré de touffes de gingembre sauvages. Nous a parfaitement dissimulés. Mado a pris ma main dans la sienne. Je l'ai lâchée au moment où j'ai compris que je n'aurais pas voulu être à ses côtés pour voir ce que j'allais voir. Maman et Cécile, enlacées au bord de la rivière, à l'endroit même où nous nous trouvions une minute auparavant. Elles ont scruté les environs à la recherche d'une présence, ont examiné le sol puis la berge, intriguées par les traces que nous avions laissées, ont observé l'autre rive, se doutant bien que ceux qui avaient été là avaient pu franchir le gué. Je me suis recroquevillée derrière notre cachette, en plaquant Mado, trop curieuse, contre le tronc. « Aïe ! C'est qui ?»« Je ne sais pas. » Elles ont semblé rassurées parce que leurs mouvements sont soudain devenus plus amples, plus libres, plus détendus. Cécile a été la première à décrocher sa blouse, qui a disparu d'un coup par le bras. Elle a retiré sa culotte, dont elle a fait une boule. Maman est restée debout, immobile devant Cécile, nue, qui l'a serrée contre elle pour l'embrasser sur la bouche. Longtemps, très longtemps. Puis, elle a saisi les deux bretelles de sa robe, de la petite robe bleue que maman portait souvent au petit déjeuner, pour les faire glisser le long des bras. Alors, nous avons pu constater comment Gus décrivait Mado dans ce passage, un garçon manqué. Mais nous comprenons que Mado aime Gus, mais de pas la même manière que lui l'aime. Après que Gus et Mado aient vu les deux femmes dans la rivière, Gus nous a analysé comment elles se comportaient ensemble. Sa mère semblait plus libre que quand elle était à la ferme. J'ai choisi ce passage car c'est là où l'on comprend que Cécile et la mère de Gus s'aiment plus qu'elle le montre. Mais avant cette scène, Gus a vu sa mère le matin plus lumineuse que d'habitude. C'est donc à ce moment-là que Gus comprend la situation. Ce passage déclenchera la destruction de la famille. C'est là où Gus s'aperçoit que sa mère n'aime plus son père et comprend pourquoi ces derniers jours, elle était de plus en plus distante. C'est à cause de l'arrivée de Cécile dans la ferme. Après ce passage, la famille de Gus changera complètement. Il y aura de plus en plus de problèmes à la ferme. Et son père deviendra de plus en plus violent.
Le passage que je vais vous lire se trouve au milieu de l'histoire. Le père de Gus a investi tout ce qui lui reste dans une poussinière, une sorte d'usine à poulets. On est au début de l'agriculture hors sol, intensifiée sans respect des animaux. L'industrie agroalimentaire. Le père y a recours parce qu'il ne sait plus comment faire pour tourner, pour survivre avec ses champs. Or, les poulets ne grossissent pas à cause de la chaleur et du réchauffement climatique. Il ne pourra pas les vendre dans ces cas-là. Comment pourra-t-il rembourser l'emprunt à la banque ? Je vais maintenant vous lire l'extrait. Papa était très inquiet pour ses poulettes. Le représentant des clients qui devaient acheter le lot allait passer dans 2 semaines et les oiseaux ne grossissaient pas. Ils mangeaient leurs grains sans prendre de poids. Leur organisme s'épuisait à lutter contre la chaleur qui montait dans le hangar. Les ventilateurs fonctionnaient normalement, mais ils n'avaient pas été conçus pour un réchauffement d'apocalypse et l'impression générale était que leur moteur, qui tournait au maximum de leur puissance en faisant un bruit de réacteur de jumbo jet, participait plutôt à l'élévation de la température du local qu'à son rafraîchissement. La mortalité était importante et, à force de ramasser de petits cormités, il fallait se rendre à l'évidence. Les rangs clairsemés de ceux qui restaient, valides mais secs comme s'ils étaient déjà cuits, n'allaient pas permettre d'avoir un retour suffisant sur investissement. Il s'agissait de sauver ce qui pouvait encore l'être. J'ai choisi cet extrait parce qu'il me fait penser à une cause actuelle qui me préoccupe énormément, le réchauffement climatique. Ce problème ne concerne pas seulement les humains, mais aussi le bétail et l'agriculture.
En effet, les animaux sont les premiers à souffrir du réchauffement climatique. Elles meurent un peu chaque jour, étouffées par la chaleur, et elles ne peuvent pas être en forme. On se demande aussi si l'agriculture ne serait pas un extrême danger, si les champs n'ont plus d'eau et qu'ils sèchent sous la chaleur du soleil. C'est important pour moi parce que l'agriculture et le bétail sont des choses qui nous permettent de nous nourrir, de vivre. Les fermiers, les agriculteurs et ceux qui travaillent dans ce domaine sont très perturbés par cette crise. Si leur bétail meurt et les champs ne poussent pas, ils ne peuvent pas vivre de leur travail. En attendant, certains hommes ne se préoccupent pas du réchauffement climatique pendant que ces animaux rendent l'âme et que les champs sèchent à une vitesse inquiétante. Dans la poussinière se trouve une ventilation. Elle consomme trop d'électricité et elle ne fournit que de la chaleur aux animaux. On n'a pas un exemple d'agriculture bio et respectueuse des animaux dans cet extrait. C'est un peu contradictoire. Ils veulent sauver les poules, mais elles ne sont pas dans un environnement adapté. Voilà pourquoi j'ai choisi cet extrait qui pourra peut-être, je l'espère, rendre certains plus conscients de ce qui se passe actuellement.
Ce qui est intéressant dans le livre, c'est l'ambiance de la famille, car au début de l'histoire, on remarque qu'il n'y a pas tellement de communication au sein de la famille. Par exemple, le père n'est pas très bavard, la mère est souvent à l'écart. Puis on remarque un peu qu'il y a une tension quand on lit le début de l'histoire. Puis l'élément de l'histoire arrive et plus rien n'est pareil. Car il s'annonce révélateur à cette tension qui est en fait une situation de crise. Il fait apparaître tous les dysfonctionnements du couple et plus largement de la famille. Il y a aussi la situation climatique aussi dans le livre. Enfin, dans l'histoire, on parle d'une grande sécheresse, le bétail et les champs cèdent sous la chaleur intense. Et ça fait un peu référence à la situation climatique actuelle, je trouve. Et on peut même méditer là-dessus. On peut aussi remarquer un lien maternel très fort entre la mère et le fils. On comprend que Gus, le personnage principal, est énormément attaché à sa mère dans le livre, mais aussi dans le film, dans l'adaptation.
Nous avons bien aimé comment le narrateur a utilisé la nature. Elle joue un rôle essentiel dans la sensualité. Le narrateur nous explique les pensées, les situations de Gus et des autres personnes en donnant des métaphores et des champs lexicaux en lien avec la nature. Parler de la nature dans un livre est important pour nous. Cela nous aide à savoir où se trouve le personnage, son ressenti. Comme par exemple pour le cheval Bagatelle, nous arrivons à imaginer l'endroit où elle s'est mise pour mourir, à quoi ressemble le champ. Dans ce livre, on se trouve dans une zone rurale. Dans ce genre d'endroit, c'est plus facile à visualiser et à comprendre les lieux grâce à la nature. À la campagne, on a plus de facilité à imaginer la faune et la flore qu'en une zone urbaine.
On conseille ce livre aux adolescents et aux personnes plus âgées. C'est un roman parfait pour vous si les histoires familiales à travers de la complication, du drame, de la romance et plein de rebondissements vous fascinent.
En toute sécurité.